I'm turning today to the second letter of Paul to the Thessalonians, chapter 1 and verse 3.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui dans la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1 et au verset 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Frères, nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, comme il est juste, puisque votre foi fait de grands progrès et que l'amour que vous avez tous les uns pour les autres abonde de plus en plus. Et nous en arrivons au début d'une courte série d'études, Dieu voulant, dans cette lettre qui a 3 chapitres et qui est une source remarquable de doctrine pour la fin des temps pour nous, Paul révèle les choses futures d'une manière particulière et également des informations essentielles et un encouragement pour notre foi, notre confiance en Christ et même la pureté de l'Église également et l'attitude par rapport à ceux qui font le mal. Et ce verset 3, « Frères, nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous comme il est juste », sera le début de notre étude. Et je vais être assez rapide. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, au verset 1. 3 écrivains, Paul, inspiré de Dieu, mais 2 personnes qui œuvrent avec lui, et les 2 étaient avec lui 7 à 9 mois auparavant. Dans son deuxième voyage missionnaire, quand l'église aux Thessaloniciens a été fondée, Luc également était avec lui. Paul, Luc, Sylvain, Timothée. Luc à présent sert ailleurs et les 3 sont encore ensemble. Et ils écrivent environ en 51 après Jésus-Christ. Et ils écrivent de Corinthe, pas d'Athènes, comme certaines notes écrivent. Et ceci a été ajouté bien des siècles après par quelqu'un qui n'a pas suivi les informations du livre des Actes, peu importe. Mais cette lettre a été écrite de Corinthe à peu près en 51 après Jésus-Christ. Vous connaissez Paul, Sylvain. Sylvain était un juif helléniste qui était probablement converti à Jérusalem et qui est nommé dans Actes 15 comme étant l'un des frères de Jérusalem qui parlaient également latin sans aucun doute parce que Luc l'appelle toujours Silas. Silas, c'est son nom en araméen. C'est le nom araméen de l'hébreu Saul. Mais il l'appelle Silas. Paul l'appelle Sylvain, son nom romain. Il avait adopté probablement la citoyenneté des Romains, sans aucun doute. Il était une aide pour Paul dans son œuvre parmi les non-juifs. Il était un citoyen romain comme Paul, et ceci était une grande aide pour eux, même s'ils ont souffert une grande persécution. Et Timothée était le plus jeune des 3, qui s'est converti pendant le premier voyage missionnaire de Paul, et qui était fidèle dans son église, dans sa région, et à présent, il a rejoint Paul dans sa mission. Tout ceci est écrit dans Actes 16 et 17, le deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. À présent, quelques mois se sont passés. Il y a une première épître, puis une deuxième épître. Et voici les salutations au verset 2. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Ceci est unique de la part de Paul. Sa salutation, la grâce et la paix, ceci est unique. Il l'utilise souvent. Souvent, les Grecs commençaient leurs lettres avec ce terme « réjouissez-vous » et les Juifs utilisaient le terme « paix ». Ce terme « paix » uniquement, au début de leurs lettres. Mais par là, ils voulaient dire en général la prospérité. C'est ainsi qu'ils comprenaient ce terme « paix ». Mais Paul commence avec la grâce. Et ceci est unique. Seul Paul utilise ce terme et il utilise ce terme « paix » dans un sens un peu différent. C'est la réconciliation avec Dieu, c'est là la vraie signification de ce terme, c'est le témoignage même de Paul, c'est là son témoignage dans sa salutation. la grâce, le salut de Dieu qui n'est pas mérité, qui est libre, et la paix qui amène à la réconciliation avec Dieu. Et cette marche avec Dieu réelle, non pas une foi de nom seulement, mais connaître Dieu réellement, tout est là dans ces deux termes, la grâce et la paix, qui sont mis ensemble d'une manière extraordinaire, la grâce et la paix. Parfois nous lisons ces choses rapidement, mais ces termes sont pleins de sens. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père, la source ultime de toute notre bénédiction. Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ, par qui la grâce et la paix ont été données, obtenues. Il est le membre de la Trinité égal au Père qui est venu dans notre monde. Dans une personnalité humaine, il a souffert à notre place et par son mérite, il a payé le prix pour notre salut. Quel commencement extraordinaire pour une lettre! Et nous prenons ces paroles souvent comme étant dues quand nous lisons si rapidement ces versets. Et nous en arrivons au verset 3. Ceci commence cette épître pour nous aujourd'hui. Au moins deux tiers de la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, c'est du nouveau matériel qui est plus qu'une répétition de la première épître. Un tiers de 2 Thessaloniciens, vous allez le trouver déjà dans 1 Thessaloniciens. Mais deux tiers est nouveau et important. Ainsi, il y a des choses qui sont récapitulées, qui sont rappelées, et il y a également de nouvelles exhortations, du nouveau matériel. Et ceci commence ici, au verset 3. Et mon premier point sera le suivant. Cette dette de louange que nous devons, cette grande dette de louange. Le verset 3 est un défi pour chacun d'entre nous. Voyez la force de ces paroles. Nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, frères. Nous devons toujours rendre grâce. Ceci vient du terme « nous le devons à Dieu ». Nous avons une dette, nous avons une obligation, un devoir. Et nous lui devons tant, nous devons profondément le remercier pour certaines choses dont l'apôtre Paul va donner la liste. Une dette de louange. Vous devez penser à la louange de Dieu comme étant une dette que vous lui devez. Est-ce que nous payons notre dette, chers amis? Est-ce que nous le louons, nous le remercions constamment? Ou est-ce que nous sommes pleins de pitié de nous-mêmes? Vulnérables et nous sommes trop chagrinés par nos difficultés, nous ne payons pas nos dettes et l'adversité vient et la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est ce pourquoi nous devons le louer. C'est ainsi que ceci devrait être. La louange vient en premier sur cette liste. Nous devons toujours rendre grâce à Dieu, nous lui devons ceci, c'est là le sens de ce terme. Frère, comme il est juste, et ce terme signifie mériter. Ainsi, il y a ce terme lié à une dette. Deux fois, nous le devons à Dieu et il le mérite. Nous ne devrions pas le priver de sa louange, de l'adoration, dans toutes circonstances, dans toute situation. Il y a trois personnes par qui l'Église a été fondée. Ils ne parlent pas de leur triomphe, de leur succès. Ils louent Dieu directement. Oh, c'est très différent de ce qui est fait de nos jours. Les gens aiment louer le prédicateur ou la méthode ou l'instrument qui a été utilisé ou la méthode qui a été utilisée pour amener les gens dans les églises et ils louent toutes ces choses. Mais quand vous lisez le Nouveau Testament, ils louaient Dieu pour la foi qui a été donnée aux convertis. C'est là la grande dette qui doit être payée et c'est bien différent. Ils ne se considèrent pas eux-mêmes, ils ne se mettent pas en avant. Nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous constamment, de manière répétée. La dette n'est pas payée en le louant une fois, mais nous devons nous souvenir de le louer constamment. Pour vous, frères, comme il est juste, c'est là le début de cette épître. J'ai été touchée par ce que le docteur Maurice a écrit, il est décédé il y a quelques années, par rapport au créationnisme. Et il a écrit des méditations personnelles, journalières. Et le titre de cet ouvrage, c'est « Des journées de louange ». Et ceci vient d'un cantique d'Isaac Watts et du psaume 146. Louez l'Éternel, loue l'Éternel, mon âme. Tant que je vivrai, je louerai l'Éternel. Je chanterai les louanges de Dieu tant que je vis, tant que j'ai le souffle. Et ceci devrait être le thème pour chaque croyant. Constamment louer le Seigneur pour toute chose, cette louange à Dieu, même dans l'adversité, cette louange à Dieu dans la tristesse, cette louange à Dieu dans le témoignage, pour tout ce que Dieu a fait, pour son aide, louer Dieu au travail, louer Dieu dans la famille, louer Dieu pour nos amis, pour notre mari, notre épouse, constamment. Ceci, c'est le cœur même de la vie du croyant. Sans louer Dieu, alors vous tombez dans cette pitié de vous-même. L'orgueil, vous échouez, vous ne vous confiez pas dans le Seigneur, vous ne priez plus. Et chaque jour, vous devez vous rappeler ceci. Est-ce que j'ai loué Dieu aujourd'hui? Est-ce que je l'ai loué dans l'adversité? Est-ce que j'ai payé ma dette? Est-ce que je me suis souvenu de lui? Est-ce que je l'ai remercié? La qualité de la vie chrétienne dépend de la louange. Nous pourrions parler de ce verset encore plus, mais nous devons continuer au verset 3. Nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous. La force de ces termes, comme il est juste, puisque votre foi fait de grands progrès. La première chose sur cette liste pour la louange envers Dieu, c'est la foi. Et l'avancement de la foi, le progrès de la foi qui grandissait, la foi devrait toujours s'approfondir, toujours se développer. C'est une vie où nous nous confions dans le Seigneur. La foi, ce n'est pas la foi, l'ensemble des doctrines, mais ici ce que la foi signifie, c'est cette confiance en Dieu. Et ceci devrait être plus profond aujourd'hui qu'elle n'était l'année précédente. Et plus profonde cette année que jamais auparavant. Ma foi, est-ce qu'elle est fortifiée? Est-ce qu'elle est approfondie? Ou est-ce qu'elle est de plus en plus faible parce qu'elle n'est pas exercée? Et je loue Dieu pour la foi, le don de la foi. Puisque votre foi fait de grands progrès. Ceux qui ont œuvré dans cette église étaient là pendant peu de temps. Il y a eu ces conversions, puis les apôtres sont partis, sont allés ailleurs. Paul, Luc, Silas, Timothée. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? L'Église a continué de grandir. Ils étaient toujours plus forts dans la foi, malgré la persécution et l'opposition terrible. Ainsi, l'apôtre Paul est plein de louanges envers Dieu pour la foi qui leur a été donnée, qui a survécu malgré toute la persécution et qui regardait à Dieu et qui s'approfondissait et qui honorait le Seigneur. Et qui témoignait pour lui, puisque votre foi fait de grands progrès. Est-ce que la foi grandit? Mais ils louent le Seigneur non seulement pour leur foi, mais également pour l'amour qui se donne. Non pas l'amour qui est statique, non pas l'amour qui est théorique uniquement, qui est presque mécanique. J'aime mes frères et sœurs. Non, l'amour qui s'exprime, qui se donne. L'amour de chacun que vous avez tous les uns pour les autres, cet amour abonde de plus en plus. Ceci grandissait également, l'amour dans l'Église, pour s'aider l'un l'autre, cette appréciation l'un de l'autre, cette affection l'un pour l'autre, ces prières l'un pour l'autre, en évitant toute calomnie, toute médisance, ou du mépris l'un pour l'autre, en évitant toutes ces choses, mais cet amour qui grandissait l'un pour l'autre, cette aide l'un pour l'autre, et il loue le Seigneur pour ces choses. Non seulement il loue Dieu, mais au verset 4, vous lisez quelque chose d'assez surprenant. L'apôtre Paul exerce un peu d'orgueil, de fierté. Oh, de l'orgueil? Ben non pas en lui-même, non pas dans ce qu'ils ont accompli, mais cette fierté dans ce que Dieu a fait. Non seulement il loue Dieu, mais il parle également de ceci dans les autres églises. Ces Thessaloniciens, dit-il, il est fier de ce que Dieu a fait en eux. Il y a une certaine place pour une bonne fierté. Au verset 4, l'apôtre Paul et ceux qui œuvraient avec lui, de sorte que nous nous glorifions de vous, nous sommes fiers de vous. Dans les églises de Dieu, nous parlons de vous. Mais nous parlons de ce que Dieu a fait, de ce qu'il a œuvré dans votre cœur, et en particulier pour ceci, pour votre patience et pour votre foi, au verset 4, pour votre endurance, votre constance. Et ce terme patience, constance, est très fort. C'est la persévérance, c'est une endurance héroïque, malgré la persécution. Et à nouveau, la foi est mentionnée. Dans toutes les persécutions et dans les afflictions que vous endurez, les persécutions, c'était les actes de persécution, de violence contre eux, et les tribulations, les afflictions étaient les conséquences de la persécution, de la violence. Certaines personnes ont été mises hors de leur maison et exclues de leur famille. Tant de personnes ont perdu leur travail parce qu'ils n'allaient plus au temple pour servir les idoles, et ceci était obligatoire. Dans chaque profession, il y avait un temple d'idoles, et si vous n'alliez pas dans ce temple, alors vous ne faisiez plus partie de votre profession. Ainsi, il y avait la privation, l'affliction. Les persécutions, ce sont les violences contre eux, les afflictions, ce sont les conséquences. Et l'apôtre Paul utilise les deux termes. Et ils ont gardé la foi. Il y a un terme merveilleux ici. Dans toutes les persécutions et dans les afflictions que vous endurez, ce terme « endurer » en grec, ce sont deux termes traduits ici par « endurer » qui signifie « vous êtes soutenu, vous vous maintenez ». Malgré cette affliction, il y a cet effort considérable pour les croyants de se tenir fermement pour Dieu, de se confier en lui, de prier et de mettre de côté leurs difficultés et leurs tristesses et de l'expérimenter et de témoigner pour lui, peu importe ce qui se passe. Vous endurez, cela signifie peut-être dans notre langue qu'ils le prennent de manière passive. Mais en grec, c'est « ils se sont tenus fermes », avec l'aide de Dieu, bien sûr, mais il y avait beaucoup à faire pour eux. « Nous sommes si fiers de vous ». Oh, ce n'est pas exactement ceci, mais je simplifie un peu. « Nous sommes fiers de vous, nous parlons de vous dans les églises de Dieu pour votre endurance héroïque et votre confiance en Dieu, votre foi, dans toutes vos persécutions, dans vos afflictions que vous endurez. » Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, « Nous souvenons sans cesse devant Dieu, notre Père, des œuvres de votre foi, des travaux de votre amour, de la fermeté de votre espérance. » Ceci est vrai dès le début. Et 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 14, « En effet, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui dans la Judée sont en Jésus-Christ, et vous avez souffert de la part de ceux de votre propre nation, les mêmes choses qu'elles de la part des Juifs, qui ont même mis à mort le Seigneur Jésus et leurs propres prophètes, etc. » Ils ont souffert la persécution terriblement. Et dans le livre des Actes, chapitre 17, quelques références pour vous au verset 4, c'est là ce qui s'est passé quand l'Évangile est arrivé parmi les Thessaloniciens et quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas avec une grande multitude de Grecs pieux et plusieurs femmes de qualité. Mais les Juifs incrédules, émus d'envie, prirent avec eux quelques mauvais sujets sur les places publiques et ayant excité un tumulte, ils troublèrent la ville et se portant vers la maison de Jason. Ils cherchaient Paul et Silas pour les mener devant le peuple. Et vous lisez tout ce qui s'est passé là, la souffrance, et Paul et Silas ont dû partir après cela. Et les Juifs ont continué de les persécuter dans cet endroit, dans cette région. D'où est-ce que leur foi venait? Cette foi qu'ils avaient pour tenir ferme malgré ces persécutions. L'apôtre Paul loue Dieu pour leur foi que Dieu leur a donnée. « Car par la foi, vous êtes sauvés. » Éphésiens chapitre 2, verset 8. « Par la grâce, vous êtes sauvés. » Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dieu nous donne la foi et louez-le pour cela. Quelle transformation, quel changement dans votre vie. Est-ce que vous avez Dieu? Est-ce que vous comprenez le message de l'Évangile et vous êtes amené à Dieu, vous le connaissez? Gardez ceci, chers amis, exercez votre foi. Il vous l'a donnée, mais vous devez l'exercer. Sinon, elle va s'effacer et elle va être faible. Mais Dieu nous soutient et nous aide. Et Paul est capable de louer Dieu pour la foi qu'il a donnée aux Thessaloniciens. Au verset 5, un autre point. La foi est vue ici comme étant le plus grand des signes du salut. Il y a un certain nombre de signes du salut, comme vous le savez. La foi est probablement le plus grand de ces signes. Au verset 5, ce qui est une preuve, cette foi qui vous fait endurer, ce qui est une preuve du juste jugement de Dieu, une preuve visible du juste jugement de Dieu, et suivez bien soigneusement, afin que vous soyez rendus dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Pour souffrir de la bonne manière, pour garder votre foi dans l'adversité, d'être capable de louer Dieu, de garder votre foi dans l'adversité, et de plus, qu'elle puisse grandir dans l'adversité, c'est là ce que l'apôtre Paul dit, cette foi qui grandit, c'est un signe essentiel, une preuve visible de la justice de Dieu. Comment? En quoi? Dieu vous a donné la foi, et si vous l'exercez, cette foi va vous soutenir, malgré la persécution et dans la persécution. Ceci est une preuve que Dieu va vous donner une récompense et vous aider à la fin de votre vie. Votre foi dans l'adversité est une preuve visible, une preuve manifeste que votre foi est fonctionnelle. Si vous avez la foi quand tout va bien, c'est bien, mais si elle disparaît quand tout va mal, alors il n'y a pas de preuve de votre foi que vous êtes l'un de ceux qui sera rendu digne du royaume de Dieu. Vous ne serez jamais digne, non, mais vous serez rendu digne par la grâce. Dieu va vous voir comme étant digne par Jésus-Christ. Notre souffrance dans la patience, notre endurance, notre foi ne mérite pas la bénédiction éternelle, mais ceci prouve que nous faisons partie de ceux qui, par la grâce, sont sous la bénédiction éternelle. Ce qui est une preuve visible du juste jugement de Dieu. Le juste jugement de Dieu, voyez-vous, c'est que tous ceux qui souffrent pour le royaume de Dieu seront récompensés. Si vous souffrez d'une certaine manière pour le royaume de Dieu et que vous tenez ferme dans votre foi, c'est une preuve que vous êtes dans le royaume de Dieu. C'est là l'argument de l'apôtre Paul. Dieu, à la fin, va vous bénir, vous donner cette récompense. Je relis le verset 5 qui nous aide tant. Ce qui est une preuve du juste jugement de Dieu, afin que vous soyez rendus dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Ce verset commence par ce terme « ce qui est en italique, qui n'est pas dans le grec. Au verset 4 et 5 en grec, c'est une seule phrase. Et de nos jours, nous mettrions deux points entre le verset 4 et le verset 5. À cause de votre constance et de votre foi dans toutes les persécutions et dans les afflictions que vous endurez, deux points, c'est là une preuve du juste jugement de Dieu. Et l'équivalent, c'est le « ce qui » que nos traducteurs ont ajouté pour nous aider. Ensuite, l'apôtre Paul continue pour nous montrer le juste jugement de Dieu au verset 6. « Car il est juste devant Dieu ». C'est l'exercice de sa justice parfaite et absolue qu'il rend l'affliction à ceux qui vous affligent. Ceci est très important. Nous devons savoir cela. Le caractère même de Dieu, c'est la justice. Sa justice fait qu'il ne peut faire rien d'autre. Il doit être entièrement juste. Il va récompenser tous ceux qu'il souffre pour son royaume, pour son nom. Et il va faire vengeance à tous ceux qui causent cette souffrance. Ce n'est pas quelque chose que Dieu fait en passant, mais c'est quelque chose qu'il doit faire. Parce que ceci fait partie de son caractère juste, que d'être juste et droit. C'est aussi certain que cela, l'apôtre Paul dit que le fait que vous, croyants, vous souffrez, montre que la justice de Dieu va vous récompenser. Ceci est inévitable. Dieu va récompenser la souffrance pour son nom et il va faire vengeance à ceux qui causent cette persécution. Ceci est fondé sur la justice de Dieu. Où est-ce que nous trouvons ceci ailleurs dans l'Écriture ? Nous voyons ceci constamment. Et j'aimerais lire Deutéronome chapitre 31. Et vous pouvez voir ceci dans les livres de Moïse. Deutéronome 31, verset 28. La dernière grande prédication de Moïse. Faites assembler vers moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers, et je prononcerai ces paroles à leurs oreilles, et je prendrai à témoin contre eux les cieux et la terre. Et au verset 30 du chapitre 31, et Moïse prononça aux oreilles de toute l'assemblée d'Israël les paroles de ce cantique jusqu'à la fin. C'est un cantique prédication. Au chapitre 32, cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Ceci est si important, et que la terre écoute les paroles de ma bouche. Et ceci est merveilleux. Et il continue au chapitre 32, verset 35, et voici ce verset important pour nous. La vengeance m'appartient et la rétribution pour le temps où leur pied chancellera, car le jour de leur calamité est proche et les choses qui doivent leur arriver se hâtent. Il y a un principe ici dans ce verset. Et Romains 12 cite cela, l'apôtre Paul nous donne ceci. Romains 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Attachez-vous à ce qui est bien devant tous les hommes, s'il se peut faire. Et autant qu'il dépend de vous, ayez la paix avec tous les hommes. Et ensuite, ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez faire la colère divine, car il est écrit. Et voici ici une citation de Deutéronome 32, verset 35. À moi la vengeance. C'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Ainsi, pour nous, nous devons aimer nos ennemis. Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Mais pour Dieu, au temps voulu, au jour du jugement, il y aura vengeance et rétribution pour tous ceux qui ont persécuté le Seigneur et les enfants de Dieu. Et l'apôtre Paul continue avec ce passage. Et j'en reviens à 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 6. « Car il est juste devant Dieu qu'il rende l'affliction à ceux qui vous affligent. » Et au verset 7, d'une manière positive, « Et le repos avec nous à vous qui êtes affligés. » Au temps voulu, au jour dernier, à vous qui êtes affligés, Dieu va vous donner le repos. Et non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui œuvrent, l'apôtre Paul et Sylvain et Timothée et Luc. Quand le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. L'original dit « avec les anges de sa puissance ». Dans un feu flamboyant, pour exercer la vengeance contre ceux qui ne connaissent point Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et au verset 9, « parce que notre temps passe, ils subiront leur peine, une perdition éternelle. » Soulignez ceci soigneusement, l'apôtre Paul ne dit pas « ils seront condamnés d'une destruction éternelle ». Mais notre traduction dit « une perdition éternelle ». Ce n'est pas une destruction. S'il disait « ils seront détruits », ceci signifierait une annihilation. Tout serait fini. il n'existerait plus. Ce qu'il dit, c'est une perdition éternelle, c'est une destruction qui ne finit jamais. Ce n'est pas une destruction qui sera jamais réversible, mais c'est une destruction qui ne finit jamais, une perdition éternelle, une ruine éternelle qui sera éternelle. Ils subiront leur peine, une perdition éternelle. C'est très dangereux d'être léger vis-à-vis des Écritures. Certaines personnes ont enseigné que ceux qui ne sont jamais venus à Christ sont détruits et qu'ils n'existent plus, qu'ils sont annihilés. Mais les gens pensent, oh, la mort, c'est la fin. Et les gens aiment entendre cela. Mais c'est très cruel que d'enseigner ceci aux âmes, que de leur dire que la mort est la fin, une destruction finale. Non, l'avertissement, c'est que c'est une perdition éternelle. Et dans sa grâce, nous devons prêcher ces choses. Ils subiront leur peine, une perdition éternelle, loin de tout ce qui est glorieux et bon. Tout ce qui est bon et glorieux sera ôté de leur vie. Et ils iront dans la souffrance de la perdition éternelle, sans la présence du Seigneur, sans voir la gloire, la merveille de sa puissance, de sa bonté. Tout ceci commence au retour de Christ. Et nous verrons ceci dans les semaines à venir. Ces paroles sont une introduction à ces choses. Au verset 10, « Lorsqu'il viendra, pour être glorifié en ce jour-là dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. » Vous savez ce que cela signifie? Quand nous arrivons dans la gloire céleste, quand Christ revient, sa perfection, non pas sa divinité, mais sa beauté, sa perfection, son caractère, sa pureté et tant de choses qui appartiennent à Christ et qui viennent de lui, nous serons données. Et alors que nous nous regarderons l'un l'autre, nous verrons un reflet du Sauveur. Et ces choses que nous connaissions sur cette terre, peut-être ces souillures, ces péchés de notre vie, ces choses auront disparu et nous le verrons, lui, le Fils de Dieu. Aucun d'entre nous ne sera exactement comme lui parce qu'il est si glorieux. Christ, il est Dieu, il est divin. Mais nous, nous serons dans un certain sens l'image de Christ. Et ce sera pour sa gloire que son reflet, son image, son caractère sera en chacun des millions et des millions d'âmes rachetées avec lui dans la gloire, lorsqu'il viendra pour être glorifié dans ses saints en ce jour-là. Il y aura tant de sa personne transférée en eux et infusée en eux et admirée dans tous ceux qui auront cru, car vous avez cru à notre témoignage. En ce grand jour qui vient, c'est une introduction à une courte série dans cette lettre extraordinaire de l'apôtre Paul écrite aux Thessaloniciens. Louez Dieu que ceci soit la chose importante dans votre vie et louez Dieu pour votre foi et tenez-vous fermement dans l'affliction. Souvenez-vous de cette foi qui est le signe essentiel de votre salut et la preuve que vous serez rendu digne d'être admis dans la gloire céleste, parce que Dieu va vous donner cette récompense à tous ceux qui se tiennent fermement.